Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interview des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interview des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois Sam Sam et Nick Cook, qui ont sorti il y a quelques semaines un livre intitulé « En cuisine avec papa ». Ils nous racontent dans cet épisode l'origine de ce projet, de cette rencontre. Bref, une discussion à trois très détendue, dans laquelle je vous propose de rentrer tout de suite et carrément dans le vif du sujet, comme vous l'entendrez. Un grand merci à vous et bonne écoute. Ça va être super.
Non mais je lui ai dit une fois, on était en plein shooting, et je lui ai dit, moi mon crush masculin, si je devais coucher avec un mec, ce serait Tom Hardy, tu vois. Genre vraiment, physiquement et tout.
Il m'a pris des pourrus.
Ils étaient là genre, mais what, le mec nous dit un truc comme ça. Au final, Coralie qui faisait des photos, je l'avais rencontré il y a deux jours, tu vois. Et je me sentais bien, quoi.
Ah, mais c'est pour ça que ça marchait.
C'est surtout parce que Tom Hardy était pas en vacances dans le sud de la France, quoi. Sinon, moi, vous me voyez plus.
Le mec, il est fou.
Non, mais c'est intéressant de réfléchir sur sa propre homosexualité latente, tu vois.
Moi, j'ai ni homosexualité ni hétérosexualité latente, tu vois. J'ai une sexualité qui est assez...
Mec, il est dans le turfu. Ouais.
C'est ça.
Je suis... Après, Tom Hardy, il est sexy quand même.
Tom Hardy, il est beau gosse, ouais.
Sexuellement, je sais pas, tu vois, parce que je pense que le mec qui me plaque contre un mur, tu vois, je sais pas si serait très à l'aise.
Autant tu risques de changer d'avis.
Dans un rapport de force, tu vois, parce que lui, il est quand même.
Tu penses forcément que ce serait un rapport de force.
Je sais pas.
Ça, c'est pas un peu cliché.
Ouais, mais tu vois, le mec, il fait que des films.
Homosexuel, quoi.
Non, pas du tout. Non, je parle de Tom Hardy parce qu'il est bodybuildé, qu'il fait que des films super violents et tout.
Ouais, mais c'est pas parce qu'il est super violent qu'il est forcément super violent au lit.
Ah, ouais, je sais, mais voilà. En même temps, je le connais pas personnellement, tu vois.
Alors, si vous avez couché une fois avec Tom Hardy, envoyez-nous...
Appel à témoignage.
Envoyez-nous un petit témoignage.
Sinon, Tom Hardy, si tu nous entends.
Alors, donc, on est avec Nico et Sam. Salut à tous les deux.
Salut.
Ouais, je commence comme ça, hein. Je vous préviens.
Ah non, mais ouais, j'étais pas prêt, mais c'est bon. Bonjour.
Ça va aller, donc.
Ça va bien se passer. Sam, il est là, il t'inquiète. Je connais, j'ai déjà fait et tout, je suis au courant. Merci beaucoup à vous deux de venir, en fait. Vous sortez, tous les deux, un livre qui sort là, bientôt.
Ouais.
Qui est déjà sorti.
Qui est sorti mercredi dernier. Ouais.
Mercredi dernier, donc ce sera sans doute un peu plus tard, parce que je vais pas sortir le podcast tout de suite.
Il est en vente.
Il est en vente, il sera en vente encore à Noël. Vous pourrez l'offrir à tous les papas autour de vous, etc. J'imagine que c'est vachement bien fait. C'est fait pour ça, j'imagine.
Exactement.
À Noël. Et en fait, c'est un bouquin de cuisine.
Ouais,
c'est ça.
Tout à fait. C'est un bouquin de cuisine, mais pas que.
Exactement.
Alors, bah Nico, si tu veux parler un peu des recettes et tout.
Ouais, ben en fait, on l'a fait en binôme avec Sam, justement, parce que ce n'est pas qu'un bouquin de cuisine, parce que moi, ma spécialité, c'est la pâtisserie. C'est ma formation professionnelle, on dira. Et j'avais comme projet de faire un livre, un jour, et je ne savais pas par où commencer. Et le destin a fait que Sam m'a contacté, parce que lui voulait faire un livre qui mêlait pâtisserie facile pour les enfants, plutôt saine, parce que je pense qu'on va en parler, mais c'est fait un peu sans sucre blanc, etc.
Fais gaffe de bien porter le micro.
Comme ça.
Voilà.
Ok. Et du coup, c'est Samuel qui m'a mis le pied à l'étrier, m'a dit, moi, je voudrais faire un livre de cuisine, mais qui regroupe aussi des activités pédagogiques, en cuisine avec papa. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui rentrent dans ce livre. C'est pas que la pâtisserie, même si c'est vraiment la partie principale. Et du coup, j'ai dit, d'accord, on y va. Et c'est comme ça qu'on l'a créé.
On s'est chauffé d'un coup. Comme ça. Alors c'est vrai que moi, tu vois, pareil. En fait, on était, je pense, dans la même situation. C'est-à-dire qu'on s'était tous les deux dit, j'ai envie de faire un livre de cuisine. mais je sais pas par où commencer, je sais pas comment démarrer ce projet. Et moi, j'en parlais à Léa, ça faisait des mois, tu vois, que je lui parlais de ça. Elle me dit, pourquoi t'envoies pas un message à Nico, on discute de temps en temps sur Insta et tout, il y a un bon mood, machin, on se rencontre, on voit, on en parle, tu vois. En fait, c'est elle qui l'a fait parce que j'osais pas, tu vois. Ouais. J'osais pas le faire.
Mais pourquoi?
Bah, je sais pas, j'osais pas, j'étais impressionné parce que déjà, lui, niveau pâtisserie, à côté, moi, je suis un enfant de cœur, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je me fais un fraisier à la maison. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Lui, les fraisiers, il en fait tous les jours, tu vois. Non, mais c'est vrai, tu vois. Donc, voilà, j'étais impressionné par son professionnalisme. Les vidéos qu'il fait, elles sont ouf, tu vois, au niveau pâtisserie et tout. Je me disais, quelle légitimité j'ai, moi, à proposer un livre de pâtisserie à un gars comme ça, tu vois. Et après, Léa, elle m'a dit, mais attends, toi, t'as aussi tes trucs à apporter. Donc, propose un truc vraiment, tu vois, basé sur vos deux compétences. Tu vois, enfin, vos deux champs de compétences. Et c'est elle qui l'a contacté en lui disant, écoute, on a un truc à te proposer, parce que j'osais pas le faire, quoi. Et comme souvent dans la vie, Léa, elle m'a mis le petit...
Donc, merci Léa.
Ouais, merci Léa.
Léa, je ne suis pas jolie, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, parce que j'aime bien remettre un peu de contexte.
Il n'y a pas
de
problème.
Donc Léa, je ne suis pas jolie, qui est ta femme.
Qui est ma femme.
Et également la mère de...
La mère de mon fils, Gaspard.
Sam, on t'a déjà entendu dans l'histoire de Daron, oui. Donc je vais faire parler un peu plus Nico.
Ah bah oui, il faut.
Donc si vous voulez réécouter l'épisode de Sam, il est toujours disponible, je mettrai le lien dans les notes du podcast, etc. Enfin bon, bref, vous connaissez comment ça marche. Nico, bienvenue en fait.
Merci de me recevoir.
Avec grand, grand plaisir. Donc effectivement, tu disais que tu étais pâtissier de formation, mais tu as décidé de mettre en scène en fait ton métier sur les réseaux et sur YouTube notamment, c'est ça?
Exactement. Alors en fait, si tu veux, j'adore la pâtisserie, c'est vraiment ma plus grande passion, mais j'avais un gros problème avec le monde du travail en pâtisserie. J'ai commencé très jeune, donc c'était des horaires très contraignants, comme on le sait. La pâtisserie, c'est un monde qui était, maintenant ça commence à changer, mais très militaire à l'époque où moi je me suis lancé. J'avais pas un fort caractère plus jeune, donc c'est tout un ensemble qui m'a fait un peu abandonner la pâtisserie, mais j'en ai fait tout le temps à la maison. J'ai jamais stoppé, je me suis toujours auto-formé, je dirais. Et les réseaux sociaux ont fait que ça m'a permis de reprendre. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, c'est pareil, hein, c'est ma femme qui m'a mis aussi le pied à l'étrier là-dessus, c'est qu'elle m'a dit, lance-toi sur les réseaux sociaux, si ça marche, ça marche, ça marche pas, tant pis. Ça a fait boule de neige, j'ai commencé à être pas mal suivi, et du coup, ça m'a motivé. Et on en est arrivé du coup jusqu'à ce livre qui est un peu l'aboutissement là de ces deux années. Ça fait deux ans réellement que je me suis lancé sur les réseaux sociaux dans la pâtisserie. Donc voilà, c'est le premier vrai projet physique concret qu'on peut tenir entre ses mains, parce que c'est vrai que la vidéo, la photo, c'est pas palpable.
Ouais.
On fait du contenu, on s'adresse à des gens, mais on n'a pas de retour de ces personnes. On n'interagit pas réellement avec elles. Et là, le fait d'avoir le livre, de faire des ateliers, de rencontrer les gens et d'avoir un vrai objet physique, j'ai l'impression vraiment qu'on a réussi, on a concrétisé quelque chose ensemble, c'est ça.
On reviendra un peu au livre après. Mais alors, vous êtes fait lancer par vos femmes, en fait, c'est ça, respectives.
Ouais. Ça ressemble beaucoup en termes de caractère, de toute façon.
Totalement, parce que moi, je ne me serais jamais lancé de moi-même sur les réseaux sociaux.
Ta femme a une chaîne YouTube, c'est ça?
Ma femme a une chaîne YouTube. Ouais. Alors, en fait, si tu veux que je t'explique en vitesse, c'est qu'on avait des boulots assez... c'était plutôt banal. Hein. Elle était conseillère en formation et moi, j'étais fonctionnaire. J'étais sapeur forestier, exactement. Et un jour, elle a commencé à partager sur sa vie de maman. Ça a fait boule de neige, pareil. Elle a pu se permettre de quitter son boulot. Donc, je lui ai dit, moi, je garde mon travail et tout pour assurer. Et ensuite, quand ça a bien marché chez elle, elle m'a dit, maintenant, lance-toi. Donc voilà, parce que moi, il faut savoir que informatiquement et techniquement parlant, je pars de très loin. Genre, moi, même avant, j'envoyais pas de mail. Je travaillais dans la forêt en Corse. Donc, je me suis aussi auto-formé à la vidéo et tout. C'est pour ça que je pense que ce qui plaît aussi, c'est un peu ce côté qui restait quand même vachement amateur. Mm-hmm. C'est pas des vidéos très pro, même si j'essaye de faire de la qualité pour que ce soit agréable pour les gens. Et du coup, pour revenir à ta question, c'est vraiment ma femme qui m'a lancé, quoi.
Ok, c'est tellement tellement marrant en fait d'avoir. Je sais pas Sam, je pense, je sais pas si on en a parlé dans notre interview ensemble, mais qu'est-ce qui fait à un moment donné que vos deux meufs respectives, elles vous ont dit let's go, lance-toi quoi. Parce que c'est quand même un métier quoi, à part entière.
Ouais, bien sûr. Moi je pense que, enfin pour moi de mon côté en tout cas, je pense que c'est la personne qui a réussi à le plus me montrer de confiance envers moi.
Ok.
Pour que je me dise. Ouais, c'est vrai que, tu vois, pour dépasser un peu ce truc de l'imposteur, de se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter aux gens de plus que n'importe qui d'autre, tu vois? Et de se dire, au fond, t'as un vrai truc à dire et peut-être que ça ne va pas intéresser 60 millions de Français, mais les gens que ça va intéresser, au moins, tu leur auras apporté ça, tu vois? Et c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur ça, quoi.
Eh ben moi c'est à peu près la même chose. Okay. Je pense que c'est pour ça qu'on est liés quelque part.
C'est beau les yeux de l'amour.
Ouais, mais c'est non, vrai. Mais c'est vrai qu'on a vraiment, tu vois, par rapport à la rencontre avec nos femmes, à notre chemin de vie, on a pas mal de choses qui se okay. qui se ressemblent et c'est rigolo parce qu'en plus en termes de caractère, on a beaucoup de valeurs qu'on ouais. partage quoi.
Mais en fait c'est pareil, c'est-à-dire que moi j'avais beaucoup de mal à avoir confiance en ma qualité de pâtissier, du fait que j'avais pas fait une grande école comme on peut trouver sur Paris, que je m'étais auto-formé, parce que même si j'ai des diplômes, sorti de là, j'ai jamais exercé. Mmh. Donc c'est pas comme le vélo là. Par contre, quand on pratique ouais. plus dans un cadre professionnel, on a tendance un peu à s'égarer des bases, etc. Et en fait, j'ai toujours fait de la pâtisserie pour mes amis, pour mes voisins. Ils m'ont toujours dit c'est super bon et tout. Mais j'avais vraiment du mal à avoir confiance en moi, en me disant bon, c'est mes amis, c'est ma famille. Et Lisa elle m'a dit non, je te promets, ce que tu fais c'est très bien et tout. Donc j'ai continué à me former et maintenant je vois que ça plaît à beaucoup de gens. Donc je commence à avoir vraiment confiance en moi. Mais c'est elle vraiment qui m'a donné cette confiance. Après c'est un trait de caractère, je pense. Pas souvent confiance en moi pour ce genre de choses. Et là, du coup, je commence à le prendre un peu, donc c'est plutôt cool.
Et qu'est-ce qui fait que tu as voulu mêler ta fille et d'y ajouter l'aspect papa? Parce qu'en fait, tu aurais pu simplement faire des vidéos de pâtisserie en tant que pâtissier, quoi, tu vois?
Exactement. Alors, c'était pas prévu non plus. J'étais. voilà, moi, je me considère comme un père moderne. C'est vraiment très cliché ce. C'est maintenant ce qu'on appelle les pères modernes. Ça devrait ouais. même pas exister d'ailleurs comme terme. Ça devrait être les papas tout court.
J'ai l'impression que ça fait 30 balais qu'on nous ressasse les pères
c'est
modernes.
Vrai, c'est vrai, exactement.
Vois, plus ça va, plus on avance dans la modernité. J'ai ouais. l'impression.
Alors après, c'est un peu particulier, je pense, pour mon cas, parce que on l'a pas encore évoqué, mais moi je vais en Corse. Mm. Et c'est très conservateur comme région. C'est un peu particulier, c'est une île. Enfin voilà, c'est assez spécificité.
Je veux dire que les clichés corses du mec qui est là. Oh,
ouais, voilà, du père de famille qui va couper du bois et qui. non, c'est pas que ça,
heureusement. Ça existe en tout
ça
cas.
Ça existe en tout
tu
cas.
Tu veux dire qu'ils viennent pas de nulle part.
Voilà.
Ces clichés-là.
ça a pu exister. Et c'est vrai que, ben, les papas qui font de la cuisine, les papas, ne serait-ce que ça déjà, mais après, les papas qui s'occupent un peu de tout, hein, au quotidien, voilà, qui délèguent plutôt à leurs femmes, ben, c'est un peu nouveau, en quelque sorte. Et moi, j'ai toujours été comme ça. Vraiment, j'ai toujours dit, quand j'aurai des enfants, je veux m'en occuper à fond, quoi, vraiment, dans tous les domaines. Et là, j'ai commencé à, donc ma fille, j'ai commencé à vouloir faire de la pâtisserie avec elle, par plaisir, pas vraiment pour l'exposer sur les réseaux sociaux ou autres. Et en fait, elle a adoré. Elle a adoré. Et puis, j'ai vraiment vu la valeur ajoutée de cette activité, c'est-à-dire, ben voilà, le développement des sens, incroyable. Hein. Et là, je lui fais sentir les choses, les yeux bandés, elle reconnaît des choses, la cannelle, du gingembre, enfin, des choses que les enfants ne sont pas forcément habitués. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Et puis, l'activité manuelle, l'activité manuelle, elle lui plaît vraiment de fou. Quoi. Enfin, donc en fait, ça s'est fait normalement. Après, elle voyait que je faisais des vidéos parce qu'au début, c'était à la maison. Maintenant, j'ai un peu évolué. J'ai un petit atelier où je fais mes vidéos. Et elle me voyait
atelier,
de loin.
Ouais, un petit atelier sympa. Atelier professionnel avec tout l'équipement professionnel.
Oui, j'avais ça, c'est mon côté pro.
De ouf, en vrai.
okay, de vouloir faire des trucs vraiment un peu plus pro. Et en fait, derrière la caméra, elle me demandait tout le temps. Quand elle me voyait filmer, je peux venir. Et donc, un jour, je l'ai fait comme ça pour lui faire plaisir. Et puis, bon, les gens ont adoré parce qu'elle a une personnalité assez forte malgré son jeune âge. Et ça s'est fait naturellement. Ça n'a pas été calculé, mais je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a marché. C'est parce que c'est vraiment un échange d'un papa et d'une fille. Il n'y a rien qui est calculé. C'est pas scripté du tout.
Ouais.
Elle fait ce qu'elle veut. Elle mange. Elle s'en va de la vidéo. Ouais. Elle revient à la fin. Enfin, il n'y a rien qui est calculé. Et du coup, voilà, ça s'est fait vraiment naturellement.
Tu veux dire que tu la contrains pas à lui dire « Tu viens ici, c'est le taf !»
Ah non, jamais. C'est arrivé de commencer des vidéos avec elle et les gens me disent en commentaire « Mais on n'a plus vu elle, hein ?» Je dis « Mais non, elle a été regardée un dessin animé, en fait. » Du coup, voilà, c'est pour ça que
comme
ça se
la
fait
vraie
comme
vie,
ça.
Quoi,
comme part. Dans la vraie vie, exactement. Plus souvent, elle en a marre en plein milieu de la recette. Une fois qu'elle a bien mangé les ingrédients, tu vois, l'intérêt, il part un peu. Donc, comme elle veut. C'est elle qui décide.
C'est toi qui me disais, Samuel, que tu devais rajouter à peu près la moitié des ingrédients
ouais,
en plus.
C'est ça.
Parce que
moi
Gaspard,
toutes
bouffait.
Les recettes, ce qui est chocolat, sucre, les fruits, les trucs, je mets 150% de la recette, tu vois. Genre 200 grammes de chocolat, je mets 300 grammes de chocolat dans l'assiette, tu vois. Et encore, des fois, je faisais le choco gâteau courgette du livre, j'avais pas assez de chocolat. J'ai pas pu faire le nappage, j'avais plus de chocolat. C'est comme ça, tu vois. Mais là, quand on shootait les photos du livre, tu la voyais le soir, elle rentrait, ses promenades et tout. Vous faites quoi? Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux goûter? Enfin, tu vois, elle a un intérêt pour la cuisine qui est assez hallucinant. Quoi. Pour les saveurs, les textures et tout, c'est pour son âge, moi, je suis bluffé.
Je voudrais revenir un peu par rapport à Je voudrais creuser un peu ton histoire de daron, même si on va pas te faire un épisode dédié comme on avait pu le faire avec Samuel, mais tu disais que ça avait été, t'avais toujours eu, voulu avoir toi cet aspect de vouloir t'occuper de tes enfants, tu vois. C'est un truc que t'as voulu dépasser toi par rapport à la propre éducation de ton père. C'était, ça devient d'où exactement?
Alors, pour être tout à fait honnête, non, mais il n'y a aucun problème, j'ai pas de tabou là-dessus. J'ai eu une éducation, j'étais très maternée. Voilà, c'est ma mère vraiment qui m'a inculqué toutes les valeurs de société. J'irais, soit gentil, soit poli, soit truc et tout. Mon père, ça a été une relation assez particulière parce qu'en fait, jeune, j'ai pas trop de souvenirs de m'être beaucoup amusé avec lui, etc. Mais après, mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 14 ans. Et à ce moment-là, alors, ils sont toujours super bien entendus. Ça, c'est vraiment la chose vraiment qui m'a fait ne pas sombrer, en quelque sorte. C'est un peu fort comme mot, mais voilà, j'ai pas ressenti vraiment la séparation. Ça m'a fait de la peine, forcément. Quand on a 14 ans, en plus, on se cherche un peu. Et ils habitent pas loin l'un de l'autre. Ils habitent à 5 kilomètres depuis toujours. Donc, ils se sont séparés, mais ils sont présents. Et là, je me suis vachement rapproché de mon père. Et je pense qu'il a senti qu'il fallait un peu s'occuper de son fils et tout. Et on a commencé à faire des activités ensemble et tout. Et en fait, après, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, je veux pas rater tout ce côté de la petite enfance. Parce que aujourd'hui, avec mon père, on est fusionnel. Hein. Il n'y a aucun problème et j'ai aucune rancune envers lui. Lui-même, il est issu d'une famille de 13 enfants, il a 12 frères et sœurs, et ils ont commencé à bosser à 14 ans, au jardin. Là, c'était vraiment la vie dure à l'ancienne. Donc, en fait, je peux pas lui reprocher de il s'est pas auto-formé là-dessus. Il a pas reproduit, par contre, l'éducation qu'il a eue de son père. Et ça, je le remercie parce que ça a été une éducation apparemment ultra dure, à la dure. Donc, le fait déjà qu'il ait pas reproduit ça avec moi, c'était un peu l'évolution, maximum que j'étais en droit d'attendre, je dirais. Après, oui, il n'y a pas eu le côté, comme je fais avec mes enfants, câlin, 24 heures sur 24, ouais, etc. Mais aujourd'hui, mon père, il ferait tout pour moi. Il est très doué manuellement. Quand j'ai le moins de problèmes, il vient à la maison, il répare, il fait. Je sais pas si lui, au fond de lui, il essaie de rattraper un peu le temps perdu, mais moi, en plus, je lui ai jamais rien reproché, tu vois. Mais je vois qu'il essaye quand même un peu, il rame un peu. Il se dit, bon, là, Nico, c'est mon fils, je suis fils unique, moi, ce que j'ai pas précisé. Okay. Donc voilà, je vois qu'il veut vraiment se raccrocher à peut-être ce qu'il a pu rater. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec mes enfants, là, par contre, c'est papy gâteau. Okay. Ça, c'est, par contre, ça, là, il sait pas du tout, peut-être que là-dessus, il essaye vraiment de se raccrocher à ce qu'il a pas fait avec moi plus jeune. C'est papy vraiment incroyable, fou.
Et ça met du temps parfois à mûrir les hommes, hein, tu vois.
Ouais, là, ça y est.
En termes d'émotion et tout.
Non, mais c'est vrai. Et donc, je suis pas psychologue, mais j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un peu le tournant que c'est en train de prendre. Il a peut-être des regrets. Et du coup, il les reporte sur mes enfants, mais pour leur plus grand plaisir, du coup, hein, parce que c'est vraiment le papy parfait.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-cinés, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. On reparle un petit peu de ce projet. Donc ouais, tu glissais tout à l'heure très rapidement que l'un de vos objectifs aussi, c'était de mettre les trucs les plus... comment on pourrait appeler ça, naturel possible et de les plus sains possibles. Par
ouais,
voilà,
exactement.
Pour les enfants, le mec qui n'a même plus... comment on dit déjà sains? Oui, c'est ça.
Lesquels?
En fait, si tu veux, c'est quand même pas si facile que ça d'allier pâtisserie, gourmandise, donc vraiment, c'est un peu le synonyme, on dira, le côté un peu sain, parce que les enfants, ils ont quand même besoin de manger quelque chose qui leur plaît vraiment. Donc le choix qu'on a fait avec Sam, c'est de pas être dans l'extrémisme pour ce premier livre, c'est de retirer le sucre blanc. Voilà, on utilise du sucre qui est non raffiné dans toutes nos recettes. Ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'érable, de la cassonade non raffinée. Mais voilà, déjà, la base, c'était d'enlever ce sucre qui n'apporte rien, mis à part un goût sucré, parce que le sucre blanc, il apporte strictement rien en termes de vitamines et tout, et ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était là-dessus déjà l'accent, en termes de healthy, on dira. Même si on ne peut pas appeler ça, vu que c'est quand même assez sucré, certaines recettes. Après, on a beaucoup de recettes qui utilisent
sucre. On a des recettes sans sucre ajouté.
Voilà. Ce côté sain, il passe vraiment par là. Ça, c'est la première étape. On voulait pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, et sortir tout le sucre au risque de sortir un livre après qui, gustativement, n'aurait pas eu d'intérêt. Je pense qu'on se forme, nous, toujours actuellement là-dessus, hein, à réduire nos sucres, à trouver d'autres alternatives. Donc voilà, c'est un premier livre. Peut-être que d'autres viendront par la suite, on ne sait pas, et qui diminueront encore le sucre, ou trouveront d'autres alternatives. Mais celui-là, c'était vraiment le bon compromis entre la gourmandise et plus de sucre raffiné du tout. Donc on trouvait que c'était sympa de commencer comme ça.
Ouais, après on a mis l'accent sur les produits de saison, parce que le livre il est divisé en saisons plutôt que... En fait à chaque fois il y a dans chaque saison un petit déj, enfin trois petits déj, trois goûters, trois desserts en gros, et des recettes spéciales pour les fêtes ou pour les événements importants de la saison. Mais nous ça nous tenait à cœur de faire par saison, parce qu'avec Nico on est quand même vachement proche de la nature, tu vois, de enfin surtout chez lui, parce que chez moi c'est vrai qu'il y a moins, j'avais moins accès à la nature en tout cas là où j'habitais avant, mais chez lui c'est vrai que t'as des arbres partout et donc t'es vraiment imbibé dans ce truc de la des saisons, les arbres qui fleurissent, les fruits qui arrivent et tout, quels fruits on peut manger machin et tout, et nous bah on avait envie de retranscrire ça aussi dans le livre, donc on voulait essayer de proposer aux gens bah de cuisiner des choses qui sont accessibles en cette saison là, tu vois. Donc le livre il est divisé comme ça aussi pour ça.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, Samuel? Je pense pas qu'on en ait parlé dans notre épisode, je vais redire ça 14 fois mais peu importe, mais de te mettre à la cuisine avec ton fiston.
Bah moi j'ai toujours cuisiné depuis que j'ai des souvenirs, je cuisine avec ma mère. Okay. Et avec quasiment toutes les femmes de ma famille, j'ai cuisiné avec elles. J'ai ma grand-tante, ma grand-mère et ma mère. J'ai des souvenirs de ouf avec elles de cuisine. Au point où une fois je suis allé dans un hôtel avec Léa au restaurant, ils nous ont servi un tiramisu un peu différent de que j'ai l'habitude de manger, et j'ai eu un espèce de choc émotionnel parce que j'ai vécu
un ratatouille.
Mais tu vois ratatouille, exactement ça. Je lui ai dit à Léa, putain, c'est un truc de ouf. Je me suis revu cuisiner un tiramisu avec ma mère quand j'étais petit, tu vois. Et ça tu vois, j'ai quand même beaucoup cuisiné quand j'étais enfant et tout, et quand Gaspard est arrivé, il a été allaité et tout, mais après on a choisi de pratiquer la diversification menée par l'enfant. Donc en gros, ça veut dire donner des morceaux directs à ton enfant, mais bon, faut les cuire d'une certaine façon, les donner d'une certaine taille et tout pour qu'il y ait pas de risque. Et si tu veux, du coup moi c'était tout bonus parce que j'ai pu direct cuisiner pour Gaspard des trucs identifiables avec des goûts qu'il reconnaissait, des textures qu'il reconnaissait. Et en fait, Gaspard il a toujours cuisiné avec moi parce que dès qu'il était en écharpe avec moi, que je devais faire le repas ou quoi, du coup il était le nez dans les cuissons, dans les trucs. Dès qu'il a pu se tenir debout, il avait son escabeau et cuisinait. Pour moi, c'était tellement naturel, si tu veux. Puis, vu qu'avec Gaspard, on partage notre quotidien, et que moi, mon quotidien en tant que père au foyer, tu vois, c'est aussi de faire les repas, de faire les.
De faire à manger.
C'est pratique, tu vois.
Faire en sorte qu'il survive à chaque fois qu'il passe.
Donc, du coup, il a toujours traîné dans les cuissons, dans les casseroles, dans les trucs. Et donc, maintenant, il n'y a pas une journée où on ne cuisine pas ensemble, tu vois.
Ok. Vous avez des retours respectifs de la part d'autres pères, parce que je trouve que votre taf en général en fait ouvre vraiment une porte assez intéressante. C'est que je n'avais jamais pensé moi à faire la cuisine avec mes mômes. C'est-à-dire que c'était pas une activité dans ma tête, parce que j'ai jamais vu de père. J'ai 42 balais. À l'époque où j'avais votre âge, enfin où mes enfants étaient petits, j'avais pas quoi, ça n'existait pas. Vous avez des messages, vous avez des retours de la part d'autres darons qui s'y mettent aussi de ce fait-là? Parce que je trouve que c'est un beau modèle, quoi.
Alors, franchement, ça commence.
Ouais.
C'est pas la majorité, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression.
C'est les meufs. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de mamans qui me disaient je l'ai offert à mon homme.
Pareil, okay. Exactement. Donc, je pense qu'elles essayent.
Ouais.
Je pense qu'il y a une petite barrière à franchir. Je sais pas si les hommes sont encore un peu. Bon, après, il y a certains hommes qui doivent pas savoir du tout cuisiner, mais c'est le bon moyen de commencer parce que franchement, les recettes du livre, elles sont réalisables à partir de 2 ans. Donc, quand t'as 30 ou 40 ans, tu peux les faire. Mais par contre, c'est intéressant parce que je commence véritablement à avoir des messages d'hommes, sachant que ma communauté elle est composée à 92% de femmes sur les réseaux sociaux.
Moi 98.
Ouais. Ah ouais, lui c'est ouf. Lui, c'est ouf quoi. Il m'a dit ça. Moi je pense avoir un super score.
C'est dur de s'adresser aux. À la base, ma base c'est les fans de Léa qui ont découvert notre compte. Donc, c'est dur de parler des hommes du coup. Quand t'es à 90 ou plus % de femmes qui te suivent, c'est compliqué.
Ouais.
Mais du coup, quand dans la journée, t'as 100 messages privés de femmes et que t'en as peut-être 10 ou 12 d'hommes, si tu fais le ratio, tu te rends compte que les hommes que tu impactes, je dirais, ils sont réceptifs, t'envoient quand même des messages. Et on a quelques-uns des papas qui m'ont déjà envoyé des photos qu'ils avaient réalisées avec leur enfant du livre, donc ça fait vraiment plaisir, tu vois.
c'est clairement une croyance limitante. Enfin, c'est ce qu'on appelle en psychologie une croyance limitante, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc où tu te dis, bah, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Ouais,
exactement.
C'est pas mon rôle, c'est pas mon domaine, ou je sais pas quoi.
Mais c'est dur à casser. Ouais, c'est dur à casser.
C'est dur. Et tu vois, c'était un des objectifs un peu du livre, comme t'as dit très bien tout à l'heure, de faire réaliser aux gens que cuisiner, ça peut aussi, à la place d'être une charge et une tâche, être une activité à part entière, tu vois. Et plutôt que te faire chier à trouver une activité où ton enfant peut être seul et calme pendant que toi tu cuisines et que du coup tu peux cuisiner tranquille, entre guillemets, parce que ton enfant te perturberait dans ta cuisine, bah, juste de te dire, bah tiens, je vais le faire cuisiner avec moi, tu vois. Donc là, tout le monde y gagne, tu vois, et tout le monde prend du plaisir. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein de gens chez qui c'est pas un réflexe. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce livre.
Mais de ce fait-là, comment vous arrivez à gérer? Est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être 2-3 conseils à donner aux pères qui voudraient bien se lancer comme ça et qui se disent, ok, mais il y a des problèmes de sécurité, j'imagine qu'il y a plein de soucis. C'est quoi vos conseils que vous donneriez?
Mais en fait, si tu veux, moi je pense que le plus important déjà, c'est de casser les préjugés, enfin de pas avoir peur d'être jugé par ses amis ou quoi. C'est souvent un petit blocage comme ça, hein, qui, genre, qu'est-ce qu'on va dire de moi? C'est souvent là-dessus le premier problème. Après, une fois que tu as passé cette barrière niveau sécurité, comme tu le dis, c'est du bon sens. Tu utilises toi le couteau, tu fais toi la casserole, mais lui, tu le laisses s'amuser avec la pâte, tu laisses former les boules des cookies.
Ouais, voilà.
Et franchement, quand les enfants, ils sont tellement reconnaissants qu'on leur accorde du temps, et en plus, ils ont l'impression vraiment d'être en mission.
Ouais.
Parce qu'ils vont cuisiner quelque chose qu'ensuite la famille va manger. Et franchement, rien que ça, moi, je vois la fierté à chaque fois avec ma fille. Quand le gâteau sort du four, elle dit à tout le monde, c'est moi qui l'ai fait. C'est là, tu vois, les amandes, c'est moi qui les ai mises et tout. Et donc, je trouve que, franchement, il faut vraiment casser cette petite barrière de qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais de la cuisine avec mes enfants, même si nous, on a du mal à la concevoir.
Ouais, c'est clair.
Mais je pense que ça peut être un blocage pour certains papas.
Oui, pardon, vas-y.
Non, mais j'allais dire, t'as déjà eu des exemples de pères qui te disaient ça, c'est ça?
Alors, j'ai pas d'exemple concret, mais c'est vraiment un ressenti. C'est une impression que j'ai l'impression qu'il y a, les papas ont peur d'être jugés.
Il y a une timidité, ouais. Ça, c'est clair. Moi, je le ressens aussi. Et après, l'autre gros préjugé qu'il y a sur la cuisine, c'est que c'est compliqué, quoi. Enfin, que ça demande du temps, de l'organisation et tout, machin. Franchement, nous, ce qu'on propose dans le livre et même ce qu'on propose sur nos comptes respectifs, c'est des trucs qui sont quand même vraiment accessibles. Et mine de rien, une fois que tu sais comment t'organiser, tu vois, que tu sais quel objet utiliser ou pas avec ton enfant et tout, ça va vite, tu vois. Et puis bon, après, il faut aussi se dire, quand on fait une activité cuisine, la fin de l'activité, c'est quand la cuisine, elle est nickel et que, tu vois. Parce que sinon, si tu te dis, bon allez, on fait la cuisine et puis dès que le gâteau il est au four, c'est fini et je suis tranquille, en gros, tu vois. Bah bon, déjà c'est que tu pars avec l'idée que l'activité ça va être un peu relou pour toi, mais surtout tu vas être super deg parce que quand t'auras mis ton gâteau au four, tu vas te retourner, t'auras ton plan de travail dégueulasse, de la pâte partout parce que les enfants ils peuvent pas ne pas en foutre partout. Enfin, c'est normal, tu vois, et
ouais,
c'est même
sûr.
Super bien pour eux, tu vois, de réaliser tout ça, de ah ouais tiens, cette pâte elle est plus liquide que l'autre, et si je la lèche ça fait quoi, et si je la mets sur ta tronche ça fait quoi. Enfin, tu vois. Non mais c'est vrai, tu
mais
vois,
les risques.
C'est les risques et faut accepter ces risques là, mais une fois que tu les acceptes comme du jeu et du partage et du plaisir, après tu peux passer 4 heures en cuisine avec ton enfant.
Waouh.
Moi Gaspard il a fait un fraisier avec moi une fois.
Un fraisier c'est chaud.
C'est long, hein.
Fraisier c'est chaud, ouais.
Et pendant le confinement il y avait les vidéos de Nico. Il faisait une vidéo par jour de recettes, mais après on s'est dit allez viens on fait un fraisier et tout, j'avais trop envie d'un fraisier, je sais pas pourquoi.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on a passé la journée entre les temps de repos de chaque truc, machin et tout. La journée a été rythmée par le fraisier. Il était trop chaud. Il avait même pas 2 ans et demi, tu vois.
Ouais.
Il était trop chaud. Donc ça vient en faisant.
Gaspard, il a l'air d'être très chaud. Je l'ai vu là, tout à l'heure, il était là. Aidez
Ouais. Mais parce que si tu veux, la personne qui voit le plus dans sa journée, c'est moi. Et il me voit tout le temps faire des trucs pour la maison, pour lui, pour sa mère. Donc, pour lui, c'est normal, en fait, tu vois. Donc, mais là, ouais, il était chaud. Il avait trop hâte. Il a vu des saladiers avec des cuillères en bois. mais tu sais que moi, Gaspard, des fois, il faut que je prépare tout avant, tu vois, genre les ingrédients, machin et tout. S'il y a des trucs un peu chiants à faire, genre par exemple séparer les blancs et les jaunes, je le fais avant parce que ça, par exemple, il arrive pas encore et tout.
Oui.
Avant de lui dire, Gaspard, on va cuisiner. Parce que si je lui dis Gaspard, on va cuisiner, que c'est pas prêt.
Il faut que ça commence de suite.
Il a sa tour d'observation qu'il va chercher à l'autre bout de la maison. Il va l'amener au plan de travail et tout. Il monte, il met son tablier, il prend son couteau et tout. Tout est accessible, tu vois. Et là, papa, aidez. Et quand je cuisine. Et qu'il fait autre chose, tu vois, je démarre genre le repas du soir. Et que je me mets à cuisiner, je le préviens pas, tu vois, il fait autre chose, il est dans sa chambre, il regarde ses trucs, il joue, il lit. Il voit que j'ai commencé sans lui, il est pas bien, il est pas content, quoi.
Tu disais qu'il a un couteau, ton fils ?
Ouais, alors c'est pas un couteau. Ah oui, mais t'as bien fait. Alors, c'est pas un couteau exactement. En fait, c'est un outil c'est pas spécialement fait pour les enfants. À la base, tu sais, c'est pour trancher les frites. Quand tu fais des frites, pour faire des frites ondulées, là, tu sais.
Ouais.
Ou des chips ondulées, tu vois.
Ah oui.
C'est un couteau qui est pas une lame, en fait. C'est un truc ondulé, une lame ondulée, tu vois. Mais ça coupe pas. Tu peux te le mettre sur la main, ça coupe pas, tu vois. C'est pas fait pour ça. Et du coup, c'est son truc pour lui parce que c'est bien pour les enfants. En plus, c'est une poignée, c'est pas un manche. Et du coup, ça l'aide pour couper le beurre, pour couper des trucs qui sont faciles à couper, tu vois, les pommes. Il coupe les pommes avec ça et tout, donc il est content. Tout ça, je le mets accessible comme ça. Quand il veut cuisiner, il prend son truc, il vient.
D'accord. Pour revenir à la conception du livre, comment vous avez décidé de... Parce que, alors, il y a des recettes qui m'ont perturbé, moi. Tu parlais tout à l'heure du café à la courgette, du chocolat, du gâteau au chocolat à la
courgette. Chocolat courgette.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu le fasses. Franchement, il faut que tu le fasses. Alors, honnêtement, la plupart des recettes, c'est Nico qui les a imaginées quand même, parce qu'il a cette créativité-là et ces compétences-là. Et c'est vrai que même moi, il y a des trucs... Le jour, il m'a dit, tiens, on se ferait pas un carpaccio au poivre de Timut, un carpaccio de melon au poivre de Timut, il me dit.
Oh.
Je lui dis, envoie les ingrédients, ouais. Je vais tester.
Ouais, tu me souviens, tu m'as dit, mais on trouve ça où? Ils vont jamais pouvoir le faire.
Tu vois, moi, je connaissais pas. Mais au final, il y a plein de choses, des associations qui sont originales, mais qui sont super... fun.
En fait, si tu veux, je fais beaucoup de veille sur la pâtisserie, mais la pâtisserie classique française qu'on va retrouver dans les boutiques, les goûts en ce moment à la mode, les associations qui marchent bien, et c'est vraiment ma passion, la pâtisserie classique comme on peut trouver, comme on a la chance de trouver à Paris, pas forcément en Corse. Du coup, c'est pour ça que moi je fais mon petit côté touriste gastronomique à Paris. Mais du coup, voilà, je fais beaucoup de veille là-dessus et je me suis dit, on peut retranscrire ces associations intéressantes, ces goûts qui marchent ensemble. Voilà, j'ai rien véritablement inventé. Et je me suis dit, il faut par contre qu'on puisse les mettre en place pour les petits. Et ça leur permet de diversifier leurs goûts parce qu'on va sortir de la pomme, de la poire, de choses habituelles. On a mis dans certaines recettes donc du poivre Timut, qui est un poivre qui a des notes de pamplemousse. On a mis de la cardamome. On a mis beaucoup de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir. Et ça fait partie vraiment du déroulé de la recette. C'est aussi leur faire découvrir des saveurs, des senteurs. Et ça, c'est vraiment les choses qui leur plaisent énormément. Ella me demande souvent de lui faire des challenges. Elle-même, elle veut que je lui bande les yeux, que je lui fasse sortir des choses.
Okay.
Et du coup, je me suis dit, ça, il faut le mettre là-dedans. Il faut qu'on sorte vraiment du ultra classique. On va en faire. On a des gâteaux ultra classiques.
Ouais, il y a un banana bread.
On va faire des scones à la rhubarbe. Voilà, une pâte à scones que les gens peuvent utiliser avec n'importe quelle saveur. Ils mettent une banane s'ils préfèrent. Mais la rhubarbe, c'est intéressant pour les enfants. C'est acide. On en produit beaucoup en France parce qu'il y a toujours ce côté très local aussi qu'on aime bien. C'est méconnu du grand public.
Et c'est
les gens qui s'intéressent un peu à la cuisine connaissent. Et puis c'est trop bon.
Ouais, c'est trop bon.
Et donc voilà, moi je voulais vraiment mettre des ingrédients dont on n'a pas l'habitude pour les enfants, pour vraiment façonner leur goût dès le plus jeune âge, qui partent avec un bagage gustatif et culinaire, tu vois.
Et une ouverture, en fait, de dire, tiens, ça, en fait, tu vois, la rhubarbe, moi, par exemple, c'est pas un truc que je mange beaucoup, et en fait, j'adore ça, et tu vois, le fait de l'avoir fait ensemble dans le livre, ça m'a fait redécouvrir la rhubarbe, je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais oublié, mais c'est trop bon, la rhubarbe, tu vois. Et j'aurais bien aimé le savoir à 8 ans, tu vois.
Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au supermarché, qui sont devant le rayon des fruits et légumes, et qui voient des choses qu'ils ne connaissent pas et qui savent pas utiliser. Et je pense que si on peut éduquer nos enfants là-dessus, que plus tard, il arrive, et là où mon fils, Alec, il arrive au supermarché, il prend un coin, bah, il sait quelle texture ça a et comment il va l'utiliser. Et comme ça, il va pouvoir l'acheter parce qu'il sera français et tout, ouais, de saison ça. Surtout. Voilà, ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est de travailler. Je ne ferai jamais une tarte aux fraises de ma vie en hiver. Tu vois, c'est une chose que je ne ferai pas. Même si un jour, quelqu'un me demande de lui faire, je vais lui dire non. Parce que ce n'est pas mes valeurs. Les fraises arrivent au printemps, c'est super. On va les cueillir, on les cuisine. Ouais. Puis quand c'est fini, c'est fini. On a franchement, on est gâtés en fruits et légumes tout au long de l'année. Mm-hmm. On est dans un pays où on trouve de tout. On pourrait être dans un pays où il y a un autre climat, où on n'aurait pas autant de variété. Donc autant en profiter, éduquer nos enfants sur ses goûts et sur la diversité qu'on a.
Comment t'as fait pour te forger ces convictions-là que t'as aujourd'hui? C'est venu avec le temps
Alors, c'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps parce que plus jeune, j'avais pas du tout, pas autant ces valeurs. Plus jeune, je faisais ce qui me plaisait quand j'en avais envie. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de la tarte aux fraises, plus jeune, j'achetais des tartes aux fraises, même l'hiver, parce que j'avais envie de manger des fraises. Mais je pense qu'après, en grandissant et en vieillissant, on mûrit. Après aussi, on est plus au fait de la formation. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux enjeux écologiques maintenant que quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je voulais juste sortir avec mes potes. Voilà, j'étais pas... Toi, pour le coup, tu en avances.
Je vois pas de quoi tu parles. Ouais.
Mais non, puis le fait d'avoir des enfants,
t'avais des potes, toi, à 20 ans.
Le fait d'avoir des enfants, c'est vraiment un déclencheur, franchement.
Ouais, c'est ce que j'ai demandé.
Je vois que le monde dans lequel on avance, on a besoin, nous, aujourd'hui, de former, entre guillemets, c'est un peu militaire de dire ça, mais nos enfants et les nouvelles générations, pour qu'ils s'en sortent, pour leur apprendre à consommer local, parce que c'est sur un grand nombre que ça va se jouer. Il faut pas que ce soit marginal de consommer local, voilà, de saison, etc. Il faut vraiment que maintenant, de nos jours, c'est mon avis, hein, pas tout le monde sera d'accord, mais que les parents de notre génération,
ouais, bien sûr,
ceux qui ont la vingtaine, les trentenaires, on forge nos enfants à ces valeurs-là pour pouvoir s'en sortir encore pendant 50 ou 100 ans, parce que on va droit dans le mur, je pense, niveau consommation. Je suis pas un exemple parfait, hein. Je me forme toujours actuellement, mais voilà.
Personne n'est parfait, tu sais.
Voilà. Mais mon but, c'est que ma fille fasse mieux que moi et qu'après ses enfants fassent mieux qu'elle, niveau consommation en tout cas.
Ok. Moi, il y a un truc qui m'a assez scotché, c'est que mes filles sont revenues un jour avec un projet compost de l'école. Et en fait, on a mis en place un compost à l'école. Et en plus, il y a eu dans le truc qui suivait, notamment à Lille, un concours zéro déchet entre les familles.
On est sur la bonne voie, ça veut dire.
Ouais.
Et en fait, les filles nous ont calé du compost dans le jardin, et ça venait de l'école.
Ah ouais, c'est elles qui ont impacté le truc dans la maison, quoi.
Ouais. Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on attend, je pense, de nos enfants. Bon, les nôtres sont encore petits.
Ouais, c'est clair. Mais
ça viendra. Hein,
ouais, mais ça viendra. Et de toute manière, il faut que pour eux, la normalité, ce soit le tri. Il faut qu'il n'y ait plus la question de est-ce que je vais trier ou non. Il faut que pour la future génération, il faut que ce soit la norme, ce soit le tri, ce soit consommer local.
La localité.
Ce livre, il y a plusieurs valeurs à l'intérieur qui ne sont peut-être pas perceptibles au début quand on l'ouvre, on se dit on va faire de la pâtisserie. Mais il y a ce côté saisonnier. Il y a ce côté anti-gaspi, on utilise beaucoup de choses.
On l'a pas précisé.
Ouais, il y a ce côté anti-gaspi parce qu'on a une petite partie où justement on explique comment ne pas gaspiller les pots d'agrumes, les gousses de vanille usagées, etc. C'est un petit chapitre, mais il nous tenait à cœur parce que ça, c'est important aussi. Il y a le côté égalité homme-femme qui entre en jeu parce que c'est en cuisine avec papa. On vient faire comprendre aux gens que voilà, papa, maman, il aurait pu s'appeler en cuisine avec maman, sans cuisine avec papa, parce que sans cuisine avec tout le monde. Il y a plein de petites valeurs dedans. C'est pas juste un livre de pâtisserie.
Ouais. Puis il y a les activités.
Il y a les activités qui sont ultra intéressantes. Sur le coup, c'est Sam qui les a rédigées entièrement parce qu'il a vraiment cette sensibilité aux activités.
J'aime bien en plus.
Donc voilà, c'est vraiment un bon mix de le monde qu'on voit plus tard pour nos enfants et qu'on aimerait voir. Les valeurs, elles sont dans ce livre, c'est ça surtout.
Tu peux revenir sur l'aspect activité?
Alors en fait, les activités, c'est un livre de recettes de cuisine, mais à chaque saison, on propose une activité manuelle, donc qui n'est pas culinaire à proprement parler, même si elle est toujours autour de la cuisine ou du manuel. Et en plus, à la fin, on propose deux activités zéro déchet ou en tout cas pour aider à la prise de conscience environnementale et tout. Et ça, c'est un truc que moi, je fais beaucoup avec Gaspard, tu vois, au quotidien. Et c'est un truc que j'étais content de pouvoir mettre dans le livre. Alors, il y a un jeu autour du chou, tu vois. Ça, c'était un petit clin d'œil à mon daron parce que, bon, bref, hein, mon père, il est chimiste de formation. Et quand on était petit, quand il faisait du chou, tu sais, le chou, le jus du chou, si tu mets un truc acide ou basique dessus, ça change de couleur, tu vois. Okay. Et donc, il y a une activité qui s'appelle la couleur du chou dans le livre qui où tu revois ça. Il y a, par exemple, le lait d'amande à... Tu vois, on propose une recette pour faire son lait d'amande maison, mais après derrière il y a le petit gâteau à l'okara de lait d'amande. Tu sais, quand tu fais ton lait d'amande, il te reste à la fin les petites broyures d'amande qui te restent, tu vois, que tu peux pas, qui sont pas liquides. Et ça, tu peux en faire un gâteau, tu vois. Et d'ailleurs, Nico, il l'a découvert pendant la recette de shooting.
J'étais sceptique en plus.
Ouais, il me regarde, je lui dis, on va faire un gâteau avec l'okara du lait d'amande après. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, c'est quoi? Non, mais en gros, il croyait que je me foutais de sa gueule, que j'avais inventé un mot. Je te jure, parce que j'ai pas arrêté.
Je pensais qu'on prenait en main.
J'ai pas arrêté de déconner toute la semaine. Donc forcément, je lui dis un mot qu'il connaît pas et on va faire un gâteau avec. Il me dit, ouais, c'est ça.
Avec Tom Hardy à poil aussi.
Mais non, mais tu vois, c'est ce genre de truc de faire des gâteaux avec le reste de ce que t'as fait avant et tout. Moi, j'adore. Et puis, tu vois, franchement, quand t'as rien jeté sur une après-midi de cuisine, t'es fier de toi. Ouais. Quoi, tu vois.
Non, mais pareil pour les gousses de vanille, c'était le même truc. La gousse de vanille, on a trop pris l'habitude de l'ouvrir, de la gratter, de la jeter. Il y a un travail de fou derrière la culture des gousses de vanille.
Laisse tomber.
Ça coûte un bras aussi. Ça fait partie du
truc.
Ça
a un impact écologique quand même.
Un impact écologique énorme. Donc, parce que français, ça veut pas tout dire. Français, quand ça vient du bout du monde, oui, tu consommes français, mais ça vient des îles. Ouais. Et la vanille, c'est des bases de la pâtisserie. Et du coup, on a décidé de l'utiliser à 100%. Donc, on propose trois alternatives. Faire son propre sucre vanillé, faire son huile à la vanille ou encore
faire sa poudre de vanille.
Comme ça, tu n'as plus besoin de l'acheter. Puis, tu utilises le produit à 100%. C'est des petits trucs. Ça ne représente pas beaucoup de pages dans le livre, mais ça nous tenait à cœur.
C'est parsemé partout, quoi.
Parce que voilà, toujours pour en revenir aux enfants, ils apprennent que le produit, on peut l'utiliser à fond, quoi. Ce n'est pas la peine de gratter, jeter, en fait.
C'est ça.
Ouais, c'est cool.
Dans le livre, on a nos activités, mais il y a aussi des doubles pages autour de la pédagogie, autour de la parentalité. C'est sans prétention, tu vois, on n'est pas du tout en train de donner des leçons ou quoi, mais juste on propose, nous, notre vision, en tout cas, de l'attitude à avoir pour que tout le monde prenne du plaisir, en fait, en cuisine et au-delà, même dans la vie. Donc voilà, il y a quelques petites doubles pages qui apportent cette valeur aussi ajoutée, là, de la parentalité.
C'est un peu ton kiff, ça.
Ouais, ça, c'est mon kiff. C'est les pages RPZ, tu vois.
Vous êtes retrouvés tous les deux, c'est ça, pour créer le bouquin pendant...
C'est ça, il a une histoire assez folle quand même.
Alors, en fait, si tu veux, pour revenir au tout début, donc tout à l'heure on a évoqué un peu le sujet, c'est Léa qui m'a contacté. Donc, moi c'est très drôle parce que Léa, moi, on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux sans se connaître. Et un jour, j'ouvre mon compte Instagram et je vois que j'ai genre 5 ou 6 messages vocaux de Léa. Léa, je ne suis pas jolie, genre presque 1 million d'abonnés. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai toujours peur qu'il y ait des histoires. J'aime pas les histoires.
Et embrouille.
Et je vois tout, bam, 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 tous les messages qui continuent à s'afficher et il faut les écouter pour savoir ce que ça dit. C'est commencé sur Instagram. Et je dis, oh là là. Et avant de les écouter, j'appelle Elissa. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe avec je ne suis pas jolie? Il y a rien. Mais j'en sais rien et tout.
Il n'y a que son corps en 2 secondes.
Ah ouais, c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe?
Il me revient des... Je suis un peu moins lisse des fois. Et du coup, il me dit, j'en sais rien, écoute et tout. Je dis, je vais écouter.
Ça y est, perdu.
Et du coup, voilà, enchaînement de messages pour m'expliquer que Sam, il n'ose pas trop me contacter, que voilà, on aimerait bien faire le projet. Donc, moi, j'étais super emballé parce que je les suivais et je sentais qu'il y avait un truc. On s'est dit, peut-être se rencontrer, ça ne matchera pas, mais je sentais que ça allait très bien se passer. Et ils sont venus en Corse.
J'adore parce qu'il dit, on se rencontre. Le mec, je lui ai proposé, il m'a dit, viens une semaine chez moi en vacances quand même.
Ouais, tu vois. On leur a dit, venez. On a un appartement qu'on loue l'été, voilà, qu'on loue à la saison. Et du coup, l'hiver, il n'est pas occupé. On leur a dit, venez une semaine et on en discute et tout.
C'était une rencontre quand même, tu vois.
Ouais, déjà. Une grosse rencontre.
Ouais, et du coup, on est resté, on a passé une semaine ensemble. Ça a matché de suite. On l'a vu, on a commencé
c'était
à...
C'était qui tout double, là, vraiment.
Ouais, tu vois, j'avais aucun doute.
Mais moi, pareil, je le sentais trop, c'était écrit, en fait.
Et je te dis, tu vois, par exemple, c'est un truc peut-être de mec aussi, mais tu vois, par exemple, moi, d'habitude, les hommes que je connais pas, je leur serre la main, tu vois. Bêtement, alors que les femmes, je leur fais la bise, tu vois. Enfin, je sais pas d'ailleurs pourquoi je fais ça. Mais,
t'as plus le droit maintenant.
Maintenant, j'ai évolué. Non, mais à l'époque, tu vois, j'ai évolué, tu vois. Et ben, Nico, je l'ai rencontré et je lui ai claqué une bise direct, comme si on se connaissait.
Et
alors
moi,
que,
pareil, c'est fait naturellement.
Et je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant que j'ai fait ça. D'habitude, j'aurais serré la main. Et tu sentais que ça matchait entre nous direct, tu vois.
Et ouais, du coup, vous êtes resté une semaine. C'est là vraiment qu'on a On a décidé vraiment de comment serait le livre et sur quel thème exact et les petites valeurs ajoutées dont on te parlait qu'on voulait mettre dedans, le côté parentalité positive, lâcher prise, les activités. Bon, après, ça a pris du temps pour vraiment qu'on sache, parce que créer un livre pour des gens qui n'en ont jamais fait, alors toi, tu avais quand même l'expérience de ta femme qui en avait sorti un, donc tu savais un peu, moi, je partais vraiment de zéro. J'avais du mal à m'organiser dans ma tête, à savoir ce que ça allait donner, c'était très abstrait pour moi. Et du coup, le fait que Léa soit là, ça a permis vraiment de cadrer les choses. Donc, c'était une semaine de discussion. On a passé un super bon moment. Ensuite, ils sont repartis. On est restés du coup en contact. On a commencé à bosser sur le livre.
Ouais. Et là, ça a été la navette parlementaire des recettes. Ouais, j'avais ça comme ça.
Là, ça a été fou. Ça a été fou parce qu'en fait, ce qui me tenait vraiment à cœur et ce qui a pu être relou, mais c'était la chose sur laquelle je voulais pas lâcher, c'était que je voulais pas aller sur Google taper, parce que tu vois des gâteaux, tu vois les gâteaux chocolat courgette comme tu en parlais, c'est des choses qui existent maintenant, et en fait je voulais pas aller sur Google taper chocolat gâteau chocolat courgette et enlever les 50 grammes de sucre blanc et mettre 50 grammes de cassonade et dire c'est ma recette.
Après, est-ce que tu aurais réussi à aller sur Google et tout ou pas quand même?
Que je sois pas trop bon en informatique, c'est ça, fait. Mais après, on n'a pas trop de connexion. En plus, en Corse aussi, donc ça fait beaucoup de problèmes.
C'est ça.
Non, mais du coup, voilà, j'ai fait ça. J'ai vraiment voulu créer nos recettes et me prendre la tête avec les textures, les goûts. Je voulais vraiment que ce soit bon et que ce soit pas juste le livre fait à la va-vite. On part quand même avec un sacré désavantage, c'est d'avoir un livre d'influenceur, entre guillemets. Ça a pas bonne presse, c'est pas le genre de choses. On a l'impression que... Ouais, j'ai l'impression, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu entends livre d'influenceur, t'as l'impression que c'est le livre que le mec a fait en plus. Tu sais, le petit côté... je trouve pas mes mots, mais voilà, le plaisir personnel d'avoir fait quelque chose, mais sans que ça ait été trop travaillé, tu vois. Et on le voit sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même une certaine défiance envers les livres d'influenceurs. Tu vois, je pense que Léa, elle est passée par là quand elle a sorti le sien.
Justement, elle, ça a été une des premières, donc ça allait. Mais c'est vrai que
mais après, t'as l'impression que chaque influenceur veut sortir un livre. Et nous, on n'était pas du tout dans cette démarche. Nous, c'était pas sortir le livre coûte que coûte, c'était sortir le livre qui nous ressemble coûte que coûte.
Je pense plutôt que c'est les maisons d'édition qui contactent les influenceurs en leur disant venez, on fait un livre. C'est plutôt.
Oui, oui, mais le fait est que c'est des fois mal reçu, tu vois.
Ouais, mal reçu par le public, vraiment.
Par le public.
Ouais, le fait que Léa soit un peu précurseur, ça l'a aidé en fait dans ce sens-là. Mais après, c'est vrai que ça a été difficile pour les autres, franchement, je le vois. Et du coup, moi, j'avais surtout pas envie qu'on m'attaque sur le fait que j'avais pris mes recettes sur Internet, j'avais changé 2 grammes et j'avais dit c'est ma recette, tu vois. C'est des choses qui se font, hein, on le voit hein, sur les réseaux sociaux. Donc, il fallait les travailler. Du coup, la navette des recettes, elle a marché à plein pot parce qu'on a fait des tonnes de tests. Je prends souvent l'exemple du gâteau que je voulais faire à tout prix dans un potimarron pour Halloween. En fait, je voulais cuire un gâteau dans un potimarron pour Halloween. Je m'étais fait une fixation là-dessus. Et en fait, j'ai fait 9 recettes et il n'est pas dans le livre parce que j'ai pas réussi à le mettre au point.
J'ai cru qu'il allait tomber en dépression.
Ouais, et ça n'allait pas, c'était pas bon. Et je voulais à tout prix le faire. Du coup,
c'est
abandonné, tu vois, comme quoi.
C'est comme
fois,
les bonbons maison que je voulais faire.
Les bonbons maison, ouais. Enfin, tu vois, franchement, on peut pas nous reprocher d'avoir fait des recettes bateau. On les a vraiment travaillées. En faire 50, ça a été
Ça nous a pris quoi, 10 mois?
Ça nous a pris 10 mois. Et on a réussi, donc on est content parce qu'en fait, c'est vraiment des recettes que tu peux pas trouver ailleurs normalement, tu vois. Après, je dis pas, hein, c'est tellement vaste Internet.
Ouais,
tu peux trouver une recette qui est très similaire parce qu'on le sait pas. Mais on a cette fierté.
Ouais, on a cette fierté là, en tout cas,
d'avoir fait des recettes originales. Et ça, voilà, c'était vraiment la chose sur laquelle je voulais pas lâcher, tu vois.
Et puis, on s'est cassé la tête à les tester aussi, tu vois. C'est-à-dire que Nico, il faisait une recette, ou alors moi, j'avais une idée, tu vois. Je lui disais, tiens, moi, j'aimerais bien, avec Gaspard, tous les matins, généralement, le week-end, on se fait un pain perdu. Qu'est-ce que t'en penses? On crée un truc autour du pain perdu, tu vois. Et 2 semaines plus tard, il m'envoyait un truc, tiens, essaye ça. Mais après, moi, j'ai essayé avec Gaspard parce que le but du livre, c'était que ce soit accessible à un enfant, tu vois, à partir de 2 ans. Donc, ça tombait bien. J'avais un enfant de 2 ans sous la main qui adore cuisiner, tu vois. Donc, Gaspard, viens, on fait un pain perdu et tout. Puis, je disais, oh, ça, c'est long quand même à faire et tout. C'est un peu relou. Bon, c'est rarement arrivé, mais tu vois, il y a eu quelques corrections à faire. Puis après, Nico, il a testé de son côté avec Ella, machin. Donc, au final, toutes les recettes du livre, on en était fiers, mais surtout, on était confiants parce qu'elles avaient été testées au moins 3 ou 4 fois, tu vois, dans différents milieux avec différentes personnes. Donc
La complexité, c'était vraiment allier recette originale, facilité à faire pour les enfants, parce que c'est quand même le but du livre. Donc mettre ces 2 choses-là, vraiment faire corréler, c'était un peu difficile. Après, je me souviens que quand on a parlé du livre, on a dit, bon, il faut qu'on se fixe une base de difficulté.
Ouais.
Et c'est Sam qui a dit, le plus dur dans ce livre, ce sera de monter des blancs en neige. Voilà, techniquement, ce sera le plus dur. Et je crois que ça rentre dans une recette.
C'est
peut-être 2 maximum.
Il y a 2 blancs en neige à faire.
C'est tout.
Et après, il y a une pâte feuilletée maison.
Ou une pâte feuilletée express en plus.
C'est une pâte feuilletée express, donc elle n'est pas difficile.
Voilà, mais la difficulté, on s'est dit, jamais plus compliqué que monter des blancs. Et on a réussi du coup à faire 50.
Dans ce livre, il n'y a pas faire une crème diplomate.
Ouais, il n'y a pas de cuisson à 80 degrés.
Faire une cuisson à 86, tu vois, enfin des trucs très techniques que Nico sait super bien faire, mais que moi, même moi pour le coup, alors là, tu vois, j'adore, mais je ne sais pas faire.
Ok. Petit update concernant, et je voudrais avoir ton avis de ton côté, parce que c'est une question qui est assez récurrente aussi dans l'histoire de Daron, c'est, et quand je reçois des personnalités, c'est quid de l'image de vos enfants, en fait, à la fois sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Sam, on en avait parlé, si je me souviens.
Ouais, on en avait parlé dans Histoire de Daron,
dans le premier épisode, mais t'as évolué un petit peu, parce qu'à l'époque, je pense que tu montrais
pas. Ouais, à l'époque, c'était un peu plus subtil, je dirais.
tu le montrais souvent de dos.
Ouais, voilà. Alors après, il y a eu une réflexion autour de. Bon, en gros, qu'est-ce que ça changeait que le visage ou pas de Gaspard soit exposé du moment où, de toute façon, on exposait son quotidien, tu vois. Donc il y avait cette réflexion-là. Puis après, j'ai aucun problème avec le fait de montrer Gaspard sur mes réseaux. Parce que déjà, d'un, je le fais de façon déclarée et formalisée, tu vois. Donc, niveau légal, si tu veux, je couvre Gaspard.
Quand tu dis déclarer
par exemple, si tu veux, pour le livre, il a eu un contrat de travail pour faire les photos du livre. Il est dans une agence de mannequins, il me semble que Ella aussi d'ailleurs.
Ouais, c'est le cas aussi pour Ella.
Donc voilà, tu vois, on fait les choses bien, on fait les choses pour être dans la légalité et surtout pour être dans la sécurité à la fois pour nous, mais surtout pour eux, tu vois, qu'ils aient un peu d'argent de côté aussi parce que forcément ça génère des revenus. Donc c'est normal que ça leur revienne. Et après, moi, je suis tranquille aussi avec ça parce que, comme Nico d'ailleurs, je pense, comme il te l'a dit d'ailleurs, j'ai jamais. Et je le ferai jamais, demander à Gaspard, à part du coup pour les photos du livre, de faire quelque chose. Je lui ai jamais dit, viens, je dois faire un truc sur Instagram, il faudrait que tu sois dessus. Je lui ai jamais dit, fais ci, fais ça, recommence ci, recommence ça, tu vois. Et donc, en fait, moi, je suis tout à fait tranquille parce que je partage notre quotidien. Oui, il y a mon fils, mais je le protège d'un autre côté, légalement et physiquement et tout ce qu'il faut. Donc, je suis tout à fait tranquille avec ça.
Ok. Non, mais c'était intéressant.
Non, mais je comprends
le
switch. Bah, je pense qu'à un moment, je me suis dit non, absolument pas et tout, j'avais peur. Puis en fait, j'ai compris que de toute façon, quoi que tu fasses, il y avait toujours, de toute façon, cette espèce de regard des gens sur ton enfant, tu vois, qu'il soit de dos ou de face, il y a toujours un gens qui est un connard qui va te dire, il a 2 ans et demi, il parle pas beaucoup quand même encore, tu vois. Donc au final, voilà quoi.
Et toi de ton côté, ça s'est passé comment?
Alors en fait, si tu veux, c'est un peu sur les mêmes bases que Samuel, c'est-à-dire que déjà, niveau légal, pareil, elle est couverte, elle est dans une agence de mannequins. Voilà, elle perçoit des revenus quand elle est sur des partenariats auxquels on n'a pas du tout accès puisque c'est à la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà, c'est vraiment ses sous. Il n'y a pas de, les parents chapotent, ils utilisent leur enfant parce que les gens, c'est ce qu'ils aiment bien s'imaginer, mais c'est pas du tout le cas en vrai.
Il y a sans doute des parents qui le font, mais c'est
les,
pas.
Les parents qui ne les ont pas inscrits dans les agences de mannequins et qui le font du coup dans l'illégalité. Probablement. Après, je sais pas, je suis pas chez eux. Au niveau de l'exposition en elle-même, pareil. En fait, les gens me demandent tout le temps des vidéos avec Ella parce qu'elle est très drôle. C'est un clown. Et en fait, si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu te rends compte que ça fait peut-être 4 ou 5 mois qu'il n'y en a pas eu, alors qu'il y a le confinement qui est passé par là, parce que tout simplement, elle demandait pas. On en faisait à la maison ensemble. Elle voulait pas être filmée. Elle avait pas envie. Elle avait d'autres centres d'intérêt. Ouais. Voilà, du coup, moi je sais que c'est des choses qui marchent. Je sais que si demain sur YouTube je veux marcher, ma chaîne, je la renomme Nico et Ella, je fais que des vidéos avec elle et je vais monter en vue, monter en abonnés et tout. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment son épanouissement. Après, pour sa sécurité au quotidien, je l'ai toujours dit, le fait de vivre sur une île, ça me rassure. D'être dans un village pareil, quand je l'emmène à l'école, c'est tous mes amis. Enfin, il y a aussi un cocon qui rentre en compte, qui m'a aidé à être rassuré là-dessus. Après, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que j'ai déjà eu des discussions avec des amis qui sont un peu plus dubitatifs.
C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, c'est très intéressant. Exactement. Et mes amis me disent des phrases du style, mais tu imagines plus tard, mais j'ai envie de leur dire, on n'imagine rien plus tard. Plus tard, nouvelle période, nouveau mœurs, tu vois. Plus tard, souvent on me dit, attention, t'as pas peur vis-à-vis des gens. Enfin, je défends, on parle de kidnapping et tout, mais je dis, mais regarde, en France, il y en a régulièrement, malheureusement. Ça n'a jamais été des enfants d'influenceurs. Je veux dire, t'es au mauvais endroit, au mauvais moment, il peut t'arriver une emplâtre. Mais donc, en fait, faut pas se faire une fixation là-dessus. Au contraire, je pense justement qu'on fait encore plus attention en tant que parent. Moi, je la laisse jamais avec des inconnus.
Bien sûr.
Même si c'est d'un copain, d'un tel et tout, je la laisse pas parce que j'ai toujours cette réflexion de me dire, bon, quand même, elle est exposée, les gens pourraient trouver un intérêt à, voilà, à la lui nuire. Mais, voilà, le fait d'être vraiment entouré d'amis proches, de famille, J'ai pas de problème avec ça. Ce qu'on partage, c'est très sain. Les gens ont l'impression de rentrer dans notre vie quand on, parce que moi, je fais aussi du vlog où je partage mes journées. Ils ont l'impression de rentrer dans notre vie. Mais après, ma vidéo, c'est 10 minutes sur 24 heures de la journée. Je montre ce que j'ai envie. Je montre pas, j'ai pas d'intérêt à montrer quand elle me fait une crise de nerfs. C'est pas pour le cacher aux gens. C'est que je vois pas en quoi ça va les divertir. Je montre les bons moments. Et après, je suis tout à fait honnête sur les réseaux, il y a des mauvais moments. Hein. Là, en l'occurrence, là, pour parler du moment présent, je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais on a eu un voyage en avion qui était très dur avec le petit dernier. Ça fait partie de la vie, c'est la vraie vie, on le dit aussi. On partage vraiment le plus simplement du monde. Et voilà, et dans la légalité au niveau travail pour nos enfants, puis on est OK avec ça.
OK. Non, mais merci pour les infos, parce qu'effectivement, on avait parlé avec Samuel, c'était il y a quoi, un an et demi?
C'était il y a un an et demi.
Non, c'est ça?
Un an et demi. Et
effectivement, c'est intéressant de voir que t'as ouais, changé ton fusil d'épaule, et ça m'intéressait de savoir un petit peu où t'en étais par rapport à ça, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter?
Bah écoute, non, merci de nous avoir.
Avec grand plaisir. Reçu. Mais c'est trop bien, comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment une porte ouverte géniale à tous les parents aujourd'hui de venir leur dire tout simplement, enfin à tous les pères, pardon, de venir leur dire, en fait, ça peut être une activité comme une autre, quoi.
Bah c'est clair, bah ouais, puis ça peut être une activité.
Moi, je voulais te remercier de nous avoir donné la parole parce que c'est mon premier podcast. Ouais, donc voilà, j'ai fait mon...
Moi aussi, il m'a fait ma première fois.
Voilà, donc là, c'est ma première fois aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus.
Je suis Tom Hardy.
Non, c'était très sympa, très bonne ambiance. Tu es une personne à qui on se confie sans filtre, hein, j'ai l'impression. On est très à l'aise.
Il a ce pouvoir-là, ouais.
J'ai l'impression, ouais, tu sais.
Laissez-moi tranquille.
Non, c'était très sympa. Merci de nous avoir donné la parole parce que c'est vrai que c'est une parole qu'on a envie de diffuser. Mm-hmm. Pas pour forcer les gens à le faire, mais pour leur donner l'opportunité de savoir que c'est possible, en fait. Et que les papas fassent un peu plus la cuisine avec leurs enfants, que c'est pas une contrainte et que c'est un plaisir, du coup. Donc, merci de permettre de diffuser ce message.
Avec immense plaisir. Je mettrai tous les liens pour acheter à la fois le livre, vous suivre sur les réseaux, la chaîne YouTube, tout ça. Les gens, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans les notes du podcast comme d'habitude. Et puis, bah, merci à tous les deux. Alors,
merci.
Merci
encore. Je souhaite
encore
plein de succès à ce bouquin. Ben,
merci.
Ce qu'il mérite.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.